Nous sommes en compagnie d'Éric Baraté. Nous parlons de biographie animale qui est parue il y a quelques mois aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire, donc historien, et vous êtes spécialiste de l'histoire des animaux. Éric Baraté, quel est votre sujet d'étude particulièrement dans ce livre?
Alors pour ce livre Biographie animale, donc j'ai voulu essayer de retracer des biographies d'animaux qui ont existé, hein, d'animaux réels qui sont morts, d'animaux du passé. Alors des biographies d'animaux, il y en a déjà eu depuis très longtemps, mais ça a toujours été des biographies du côté des hommes. Comment les hommes ont réagi par rapport à tel ou tel animal, qu'est-ce qu'ils en ont fait, comment ils se sont comportés. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment passer du côté des animaux et faire donc des biographies qui essayent de retrouver le vécu de ces animaux, leurs conditions de vie, leurs réactions, leurs actions, de manière à pouvoir bien penser ensuite leur relation avec les hommes. Parce que si dans une relation entre un individu humain et un individu animal, on ne connaît que le côté humain, et bien obligatoirement on passe à côté d'une partie de cette relation, de la richesse de cette relation. Et donc il faut tenir les deux bouts, du côté animal et du côté humain, pour bien comprendre les choses. Et donc l'idée était là de faire des biographies côté animal où on parle vraiment des animaux et non pas en parler des hommes à propos de certains animaux.
Et alors, vous écrivez dès l'introduction, je vous cite, pour écrire des biographies, il faut croire que les individus d'une espèce sont tous différents par leur tempérament, leur capacité, leur qualité. Or, nous sommes encore persuadés que tous les chiens, les chats, les chevaux sont identiques et qu'il faut raisonner au niveau supérieur de l'espèce, des animaux, de l'animal. Là, déjà, il y a des préalables à votre recherche.
Tout à fait. Alors, en réalité, là, je fais allusion à une vieille et très ancienne habitude occidentale qu'on voit apparaître à l'époque de la philosophie grecque, hein. C'est cette idée de penser les animaux en tant qu'une catégorie à part entière, hein, les animaux, l'animalité, voire de penser les espèces, mais on a beaucoup de mal jusqu'à présent à penser des individus. Et tout le discours théologique, tout le discours philosophique, le discours scientifique, entre Antiquité et, disons, fin du XXe siècle, a été une négation de l'individu. Et résultat, on ne peut pas écrire évidemment de biographie d'un individu si on pense que c'est le même que celui, il est identique à celui d'à côté. Les biographies humaines, évidemment, ont pour but de montrer toute la singularité d'un personnage. Et donc l'idée des biographies animales, c'est de montrer qu'on a aussi cette singularité, cette individualité parmi les animaux. Alors ça n'est pas une idée que j'ai inventée, hein. En fait, on voit très bien que depuis 20, 30 ans, cette idée d'individualité animale commence à sourdre, à jaillir dans le monde occidental, à la fois du côté de philosophes, du côté d'éthologues aussi, qui travaillent sur le comportement des animaux. L'idée d'individu est devenue extrêmement importante. Par exemple, chez les éthologues canins de hongrois, hein, l'éthologie canine hongroise, vraiment, c'est une école la meilleure du monde. Eh bien, pour eux, l'individu est devenu le niveau d'analyse le plus pertinent. Ce n'est plus l'espèce, et c'est encore moins les animaux, l'animal, l'animalité, parce que l'animal n'existe pas. Il y a des espèces, il y a des individus dans une espèce, mais on n'a vu aucun objet se promener dans les rues avec une pancarte écrite animal. Ça, c'est une construction humaine. Et lorsqu'on compare l'homme et l'animal, on compare une réalité, l'homme, qui est une espèce, à un espèce de concept assez vague et qui a été construit par la philosophie, repris par la religion, puis par la science, mais qui ne correspond à rien de concret. Donc on est déséquilibré dans cette comparaison.
Alors là, vous parlez d'autres disciplines, vous parlez d'éthologie notamment, mais vous, vous êtes historien. Est-ce que pour la discipline historique, il y a déjà eu des précédents de cet intérêt-là ?
Alors, il y a eu effectivement des biographies d'animaux. Je pense par exemple à la girafe de 1827 qui ouvre mon livre de biographie. Cette girafe très célèbre qui débarque à Marseille et qui traverse toute la France par la vallée du Rhône et le bassin parisien et qui arrive à Paris, à sabot, hein, à pied, avec son escorte. Il y a eu des livres, des études sur cette girafe, mais ça a toujours été le côté humain, c'est-à-dire comment la foule se passionne pour cet animal-là, en quoi l'arrivée de cet animal va entraîner une véritable mode vestimentaire. On s'habille à la girafe, on se coiffe à la girafe du côté des dames, mode musical, il y a des opéras, des valses, mode théâtral, il y a des pièces de théâtre à la girafe. On produit des assiettes avec le portrait de la girafe au fond de l'assiette. Donc c'est ça qui a retenu l'intérêt des historiens, c'est le côté humain. Et là, la nouveauté, alors là, il n'y a pas eu jusqu'à présent de précédent du côté des historiens, c'est qu'au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce mouvement humain, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'animal. Et le qu'est-ce qui s'est passé du côté de cette girafe, d'abord, ça permet de voir qu'on a bien affaire à un individu qui a son appréhension du voyage, sa singularité, et en même temps, ça permet de comprendre beaucoup de choses dans la relation qu'elle se met à entretenir, à créer, à entretenir avec les hommes qu'elle rencontre.
Oui, parce que si on prend le cas de cette girafe, donc la girafe de Charles X, qu'est-ce que nous apprenons, nous lecteurs ? Nous apprenons par exemple qu'elle peut être gênée par son arrière-train parce qu'elle ne bouge pas comme dans la savane, mais on apprend quelque chose aussi qui est une approche de l'éthologie. Je vous cite, et l'absence de congénères, donc l'absence d'autres girafes, l'empêche de communiquer par vocalise ou infrason pour partager émotions et sensations. C'est-à-dire qu'elle est coupée, bien entendu, de son environnement naturel, mais elle est aussi coupée de ses congénères. Et là, cet empêchement de communiquer, particulière à l'espèce girafe, vous essayez de nous faire ressentir un peu ce problème-là pour cette girafe-là.
Cette girafe, justement, donc elle est coupée de ses congénères et donc elle va être obligée d'entamer, on pourrait dire, des communications avec des individus d'autres espèces, avec les hommes, avec les vaches qui la côtoient, puisqu'elle boit surtout du lait de vache, avec des antilopes, etc. Donc il y a une véritable des communautés hybrides, comme disent maintenant les philosophes, qui sont créées avec des individus d'espèces différentes. Et évidemment, ça entraîne tout un jeu d'incompréhension réciproque, d'efforts réciproques de compréhension, d'ajustement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de gestes faits par les hommes qui sont des gestes, justement, soit d'incompréhension, soit d'efforts pour s'adapter ou d'ajustement progressif. Et ces efforts ont lieu des deux côtés. Et donc ça nous permet de voir des choses beaucoup plus intéressantes du côté de la girafe et du côté des hommes. Et on voit bien, par exemple, tout le rôle des vaches qui l'accompagnent. Ces vaches vont jouer un rôle d'édrodon émotionnel. Hein, c'est ce qui va lui permettre la plupart du temps de ne pas stresser et finalement de survivre. Parce qu'à l'époque, la plupart des girafes vivantes envoyées en Europe meurent très rapidement. Celle-ci survit, elle vit jusqu'en 1845, donc elle vit une vingtaine d'années, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, dans les conditions des zoos de l'époque, mais parce que justement, ces vaches ont un rôle extrêmement important. Donc on apprend des choses comme ça, là on apprend tous les aspects, par exemple, d'ajustement réciproque en matière d'alimentation. Au début, les Occidentaux ne comprennent pas pourquoi, par exemple, elle refuse de manger de l'herbe, pourquoi elle ne mange pas le pain, alors que le pain, c'est l'alimentation de base en Occident. On lui offre des fruits africains, en se disant elle est africaine, elle devrait manger des fruits africains, elle n'en veut pas. Et donc on voit bien finalement qu'on a là une espèce de rencontre entre deux mondes, hein, de découverte réciproque entre une girafe qui représente son espèce, qui se représente elle en tant qu'individu, mais qui représente aussi son espèce, et qui représente finalement les animaux exotiques, les animaux d'Afrique, et puis les Marseillais, les gens de la vallée du Rhône, puis les Parisiens, qui représentent évidemment des individus, mais aussi des Français, des Occidentaux. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent avec le lot d'incompréhension, d'ajustement, de compréhension progressive, etc. Et ça rend la rencontre, du coup, beaucoup plus intéressante que si on était simplement du côté humain.
Alors, la méthode que vous utilisez pour écrire certains de vos textes, Éric Baraté, m'ont particulièrement surpris parce qu'ils font œuvre aussi littéraire. Ils font usage de la langue, de la syntaxe française, poussée un peu dans ses retranchements, justement pour nous faire ressentir le côté animal, la biographie animale. On peut prendre un exemple. Je trouve que l'exemple le plus réussi, celui où je me suis moi senti taureau, c'est Islero. Islero, taureau de corrida qui est le vainqueur de Manolette en 1947. La manière dont vous avez écrit la biographie de ce taureau nous fait ressentir le taureau dans l'arène et donc nous fait ressentir le quart d'heure du taureau dans l'arène, le moment où il va où il va donner un coup de corde au torero Manolette. Et cette manière-là d'écrire, c'est quelque chose que vous avez recherché particulièrement. J'aimerais que vous nous en parliez.
Oui, effectivement, c'est tout à fait volontaire. Alors, il y a le cas d'Islero, mais pour les autres biographies, il y a aussi, peut-être pas aussi poussé pour Islero, mais il y a aussi d'autres volontés d'écriture. L'idée, c'est que finalement, les historiens se passent trop souvent de l'écriture, de la recherche littéraire. La recherche littéraire est importante parce que l'histoire, c'est aussi un récit. Hein. Paul Ricoeur l'a montré, l'histoire est un récit, c'est une mise en scène, il y a une intrigue. Alors évidemment, elle a tout le côté scientifique, il faut respecter ce côté scientifique, mais il n'y a aucune raison de se passer du côté littéraire. Et ce côté littéraire est aussi important à partir du moment où on se met à faire des biographies d'animaux, parce que très vite se pose la question de comment écrire quand je veux faire passer un vécu animal, une existence animale qui, par définition, l'idée du livre, c'est de montrer que ces animaux ont des existences, ont des vécus, ont des individualités, mais qu'en même temps, ils sont différents de nous. Une girafe n'est pas un homme, un cheval n'est pas un homme, etc., etc. Donc comment utiliser l'écriture pour faire passer toute la singularité d'une girafe, par exemple, d'un taureau, etc. Alors l'idée, en fait, c'est pas de faire parler les animaux, parce que ça serait de l'anthropomorphisme, on tomberait dans les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. L'idée, en fait, c'est de décentrer le lecteur. Je ne peux évidemment pas atteindre un langage de girafe ou un langage de taureau. Nous ne le connaissons pas pour le moment, peut-être qu'un jour nous comprendrons comment ça fonctionne, mais pour l'instant nous n'en avons que des bribes par-ci, par-là. Et donc on ne peut pas atteindre ce langage. Par contre, l'idée avec le jeu d'écriture, c'est de décentrer le lecteur, de le perturber, de le faire passer dans une autre manière d'écrire, et cette autre manière d'écrire, du coup, rend beaucoup plus facile l'appréhension d'un autre monde. C'est ce que vous disiez, finalement, je me suis senti taureau avec Islero. C'est pas que j'ai réussi à trouver la manière d'être et le langage ou la manière de s'exprimer d'un taureau. C'est qu'en décentrant l'écriture, en faisant une écriture qui n'est pas habituelle, eh bien, ça permet au lecteur de se décentrer et de se mettre dans un état favorable pour accepter, pour lire cette différence, les éléments d'une autre vie.
Alors techniquement, vous utilisez en fait le tirer. Vous dites que le tirer indique que le discours se place du côté du ressenti de l'animal. Et vous utilisez une autre technique de quatre tirés pour manifester le ralentissement du temps. À quoi ça peut être utile, cet effet de quatre tirés? Effectivement, ça fait comme une longue pause dans la phrase. Pourquoi il faut avoir ce besoin de ralentissement du temps?
Parce que c'est un moyen, là aussi, de montrer que tout ne se vit pas à la même allure pour un homme comme pour un animal. Et donc, dans la vie d'un animal au zoo, par exemple, si je prends le chimpanzé consul à Manchester, il y a des périodes de très longues attentes dans sa cage, de très longues monotonies, de presque, on pourrait dire, presque d'ennui. Donc là, il y a besoin, là aussi, c'est un moyen de faire prendre conscience au lecteur que le temps se dilate à des vitesses différentes selon les moments, dans certaines conditions, pour tel ou tel animal. Et les tirets que vous avez cités au début, c'est effectivement au milieu d'une écriture plus classique où je décris ce que fait l'animal, d'ouvrir des tirets et puis d'essayer de montrer quels peuvent être les ressentis de cet animal à un moment donné. Alors là aussi, ça n'est pas faire parler l'animal, c'est simplement écrire autrement. En fait, ce que je dis entre ces deux tirets, je pourrais le dire d'une manière très académique, avec des phrases tout à fait académiques. Et là, l'idée, en fait, c'est d'essayer de montrer que, avec cette écriture différente, on peut faire toucher du doigt un ressenti ou donner conscience au lecteur qu'il y a là un ressenti particulier. C'est évidemment pas le ressenti exact de l'animal, hein, puisque je ne suis pas une girafe ou un chimpanzé, donc ça m'est difficile à atteindre, voire impossible. Mais c'est une manière de montrer au lecteur que il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je dirais c'est un jeu, c'est un artifice, mais en même temps, ça n'est pas gratuit, c'est quand même efficace. Ce que vous avez dit sur Essero montre que c'est efficace, et donc ça n'est pas vain d'essayer le jeu d'écriture.
Est-ce que ce travail sur la langue, parce que j'imagine que c'était un travail avec des brouillons, avec beaucoup de textes finalement que vous avez rejetés parce qu'ils ne convenaient pas, enfin j'imagine un travail sur la langue tel que le pratique un écrivain, est-ce que ce travail-là, vous l'avez trouvé, vous en avez trouvé des exemples dans des œuvres littéraires, ou est-ce que non, vous n'en avez pas trouvé d'exemple parce que justement, vous êtes historien et pas créateur de fiction?
Alors si, hein, il est évident que les manières d'écrire ne me sont pas tombées sur la tête comme cela. On a évidemment préparé, et là, dans les lectures, je sais avec le recul que moi, j'étais un gros lecteur du Nouveau Roman, par exemple, de Claude Simon, un gros lecteur de Faulkner, et évidemment de Céline. Et chez ces auteurs-là, le travail d'écriture est extrêmement important, ou de Virginia Woolf, etc. Et alors, je n'ai pas imité leur écriture, mais cette idée de jouer sur l'écriture pour faire passer des choses, évidemment, je le dois à ces écrivains-là. Plus à ces écrivains-là, qui n'ont d'ailleurs pas forcément écrit sur les animaux, qu'à des écrivains ayant écrit sur les animaux. Par exemple, je dois très peu de choses, même rien, à Colette, parce que sa manière, à mon goût, hein, est beaucoup trop anthropomorphique. Et j'ai beaucoup travaillé sur les biographies littéraires d'animaux avant d'entreprendre ce livre-là. Et la plupart de ces ouvrages sont très décevants, sauf quelques exemples. Et là, je viens à Virginia Woolf. Virginia Woolf a fait la biographie d'un chien, le chien Fluche. Et cette biographie est l'un des exemples les plus remarquables. Alors, il y a beaucoup d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme, mais elle a quelques pages absolument lumineux, où par exemple, lorsque sa maîtresse et Fluche arrivent à Rome, elle décrit la visite de Rome et la découverte de Rome du côté du chien, elle le décrit par les odeurs. Et ça dure très peu de temps, ça dure une page, deux pages, mais elle a touché vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. De la même manière, elle décrit le voyage en train de Londres à Rome, elle le décrit du côté du chien et elle essaye de se demander qu'est-ce que ça veut dire du côté du chien qui est dans une cage, dans un wagon. Et donc elle insiste sur tout ce qui est perception sonore, perception lumineuse. Et elle a des passages, c'est là aussi c'est assez réduit, mais des passages tout à fait intéressants. Donc là, ce travail-là, oui, a été tout à fait bénéfique, dans le sens où il m'a conforté dans l'idée qu'il fallait travailler cette idée de ce jeu d'écriture pour faire passer plus de choses.
Ma dernière question, Éric Baraté, portera sur cette volonté que vous avez dans votre recherche, cette volonté qu'il y ait d'autres personnes qui s'intéressent à cette problématique-là, parce qu'en lisant votre livre, on comprend bien, et puis en lisant aussi le point de vue animal, enfin, j'avais lu aussi une autre version de l'histoire qui était parue également dans cette même collection au Seuil, on comprend bien que c'est toute l'ambition de votre recherche qu'il n'y ait pas que vous, qu'il y ait d'autres chercheurs en sciences historiques. Je vous cite dans votre conclusion qui est sous-titrée « Pour une histoire des comportements ». Il faut développer une histoire des comportements, de leur construction, transmission, transformation, différenciation, de manière à bâtir une histoire des espèces, de leurs groupes et de leurs individus. L'historien doit travailler à l'idée que les sociétés animales ne sont pas sans histoire, comme on l'affirmait il y a peu à propos de sociétés humaines traditionnelles, car dénier ou accorder une histoire à des autres n'est pas un geste innocent, mais politique.
Oui. Et alors évidemment, cette approche-là a un peu choqué au départ, notamment lorsque j'ai publié le point de vue animal en 2012. Mais je trouve que le public et même les scientifiques commencent à être beaucoup mieux disposés qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et ces ouvrages-là ont un assez bon accueil critique, ils se vendent relativement bien et on voit bien qu'il y a un écho. Et du côté des scientifiques eux-mêmes, je suis en collaboration avec des éthologues qui maintenant se sentent intéressés par cette histoire des animaux, de la même manière qu'il y a maintenant des historiens qui ont envie. Ça a un peu ouvert les portes, qui ont envie maintenant de se lancer dans de la biographie animale en travaillant du côté des animaux. Donc c'est en train de se mettre en place, ce n'est pas encore le raz-de-marée, ça va de soi. Mais tout simplement parce que je pense que si scientifiquement on veut faire un bon travail, on pourra de moins en moins ignorer le côté animal. On ne peut pas en faire un objet, un simple objet qui serait aux mains des hommes. On a bien affaire à des vivants, et ces vivants, il faut en tenir compte, et donc il faut essayer de les connaître. Et les connaître, ça veut dire faire leur histoire, faire leur sociabilité, étudier leur comportement, ça doit être dans des dimensions extrêmement diverses.
Merci beaucoup, Éric Baraté.
C'est moi qui vous remercie.